en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Mesdames et messieurs, bonjour. Canal Académie consacre aujourd'hui une émission à l'œuvre de Roger Arnaldez, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, élu en 1986 au fauteuil de Pierre-Maxime Schul dans la section de philosophie, récemment décédé en avril 2006. Philosophe et spécialiste de la pensée musulmane médiévale, philologue, maîtrisant plus d'une dizaine de langues, il fut l'auteur d'une trentaine d'ouvrages consacrés à la philosophie et à la théologie musulmane. Profondément chrétien, secrètement tertiaire dominicain, il fut professeur d'islamologie à la Sorbonne et resta sa vie durant très attaché à une démarche œcuménique et d'ouverture sur les autres religions. Pour connaître l'homme, Roger Arnaldez et ceux qui l'ont connu, je vous invite à écouter une autre émission en habit vert que vous trouverez dans la médiathèque de Canal Académie sous le titre « Roger Arnaldez, parcours d'un islamologue chrétien ». Aujourd'hui donc, l'émission sera consacrée à l'œuvre de cet académicien, à ses travaux de recherche, aux livres qu'il a écrits. J'accueille aujourd'hui François Desroches, également arabisant, historien de l'islam, spécialiste du livre arabe manuscrit et directeur d'études à l'école pratique des hautes études et également correspondant à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Desroches, bonjour et bienvenue au micro de Canal Académie. Vous avez bien voulu accepter de venir nous éclairer sur les travaux de cet académicien discret, modeste et grand savant qui s'est éteint il y a quelques semaines. Vous êtes historien de formation et vous avez accepté pour nous d'aller à la rencontre de cet arabisant qu'était Roger Arnaldez et qui lui était philosophe de formation. L'exercice n'est pas très aisé, mais je crois que Roger Arnaldez, qui était homme d'ouverture, sensible aux passeurs d'idées, quelles que soient leurs appartenances religieuses ou leur époque, aurait apprécié cette rencontre du philosophe avec l'historien. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Pour commencer et donner une vue d'ensemble des travaux de Roger Arnaldez, rien de tel que l'évocation de sa bibliographie qui donne à la fois la mesure de l'érudition de cet homme et son attachement profond à la philosophie, et on pourrait presque ajouter de la philosophie aux limites de la théologie. Alors il a commencé ses travaux de recherche en s'intéressant à la grammaire et à la théologie chez Ibn Hazm de Cordoue. C'est le titre de l'ouvrage et cet ouvrage a été publié en 1956. En fait, ce fut sa thèse auquel il avait donné pour sous-titre « Essai sur la structure et les conditions de la pensée musulmane ». Alors, c'est publié aux éditions Vrin et on voit d'emblée qu'il s'est appuyé sur ses connaissances linguistiques et qu'il n'y a pas d'analyse théologique sérieuse en islam qui ne fasse l'économie de l'usage qu'il ait fait de la langue arabe dans les grands textes des exégètes, des commentateurs de l'islam. C'est une tradition dans la civilisation de l'islam que de commenter le Coran, François Desroches, d'interpréter justement le texte révélé au prophète Mohammed en langue arabe. Pourquoi ?
Alors, le texte du Coran est un texte difficile. La révélation s'est écoulée sur un bon nombre d'années et il y a des différences substantielles et dans le ton et dans le vocabulaire, entre les sourates, puisque c'est le nom qu'on donne aux unités textuelles du Coran, aux sourates qui ont été révélées à la Mecque au début de la mission de Mohammed, et celles qui ont été révélées à Médine vers la fin de sa vie. Je vous rappelle qu'il est mort en 632. Les sourates les plus anciennes en particulier posent des problèmes de langue. Il y a beaucoup de termes qui n'apparaissent qu'une seule fois. Et très tôt, les fidèles musulmans se sont trouvés confrontés à la question de savoir comment comprendre le texte du Coran. Et on a commencé à recueillir toutes les traditions concernant le prophète lui-même. On a commencé à recueillir également la poésie arabe pré-islamique pour avoir des termes de comparaison. Et au cours des siècles, la grammaire, la philologie, la lexicographie ont joué un rôle très important et font partie du bagage élémentaire, je dirais, de l'homme de religion musulman qui se doit de maîtriser parfaitement ces disciplines afin de bien comprendre, de bien interpréter le Coran. Ce qui ne va pas, bien sûr, sans problème, puisque certains mots donnent lieu à une dizaine de sens différents selon les commentateurs. On a donc une difficulté réelle à laquelle les savants musulmans ont très tôt apporté ou essayé d'apporter des réponses.
Il s'agit donc de distinguer un sens littéral et un sens caché dans la lecture du Coran. C'est un grand débat d'idées qui a animé et anime les théologiens musulmans depuis donc la révélation du Coran.
Alors, effectivement, très tôt aussi, l'islam s'est retrouvé au contact d'autres civilisations, d'autres religions. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et ce contact a fait découvrir des approches des révélations antérieures qui faisaient appel justement à des interprétations allégoriques, je pense notamment au judaïsme et au christianisme. Et donc, certains interprètes musulmans se sont plus orientés vers des solutions de ce genre, d'autres en revanche ont privilégié la littéralité du texte coranique. Ibn Hazm, dont on a mentionné le nom tout à l'heure, est de ceux qui privilégient une interprétation littérale du Coran, mais on pourra voir d'autres auteurs essayer d'interpréter le Coran de manière différente, notamment dans des milieux chiites, voire dans des milieux hétérodoxes. On voit fleurir des interprétations qui donnent une place beaucoup plus grande à l'interprétation allégorique, à, disons, une recherche d'un sens caché, ce qu'on appelle batin en arabe, qui désigne justement cette réalité qui n'est pas accessible au commun des mortels qui rejoint d'une certaine manière des approches gnostiques que l'on connaît par ailleurs.
Alors, revenons aux travaux de Roger Naldez et à sa thèse sur Ibn Hazm, justement, François Desroches.
Alors, il faut rappeler tout d'abord que Ibn Hazm est un auteur qui a vécu à l'extrême fin, qui est né à l'extrême fin du Xe siècle et dont la vie s'est plutôt déroulée au XIe siècle. Il est mort en 1064. C'est un Espagnol, un musulman espagnol, probablement d'une famille dont un ancêtre s'était converti à l'islam. Et c'est à la fois un spécialiste de théologie, un juriste, mais également ce qu'on appellerait maintenant un homme de lettres, puisqu'il est l'auteur d'un ouvrage dont le titre traduit en français, c'est « Le collier de la colombe », qui comporte des poésie et qui montre une sensibilité littéraire tout à fait réelle. Donc c'est un homme assez complet qui a connu une période, disons, troublée de l'Espagne musulmane, celle de la fin des Omeyyades et puis le début de ce que l'on appelle les royaumes de Taïfa, c'est-à-dire le moment où l'Espagne musulmane éclate en une multitude de petits états, et il a été un peu pris dans cet engrenage et s'est trouvé pris dans ses luttes. C'est un théoricien du langage, il est justement de formation grammairien, en plus de sa formation de spécialiste de la théologie musulmane. Et pour lui, le langage, c'est un moyen d'accéder à la vérité. Et oui, s'il est zahirite, c'est-à-dire partisan de ceux qui s'attachent au sens littéral du Coran, c'est précisément parce qu'il a cette conviction que tout est directement intelligible et que découvrir un sens caché est une gageure qu'il faut renoncer à poursuivre. Et alors, c'est intéressant parce que chez les grammairiens arabes, très tôt, on a développé des théories qui font appel à des sous-entendus. L'arabe est une langue, disons, assez compacte, oui. Et notamment le Coran fait souvent des amalgames, et on le voit bien si on prend la traduction, par exemple, de Régis Blachère, qui est une de nos références en français.
Un classique de traduction.
Par moment, pour assurer la traduction, le traducteur ajoute entre crochets des mots pour permettre au lecteur de comprendre de quoi il s'agit. Donc il y a des sous-entendus, et Ibn Hazm est justement hostile à ceux qui, en grammaire arabe, donc dans ses prédécesseurs, font appel à des mots qu'ils considèrent sous-entendus pour parvenir à comprendre le texte. Donc il y a là, si vous voulez, une sensibilité au problème de langue auquel, je crois, Roger Arnaldez était tout à fait
très
sensible.
Très sensible, dès ce premier ouvrage de recherche jusqu'au dernier qu'il a publié, où dans le titre on retrouve aussi « grammaire ». syrien, voilà. Commentateur.
Il avait, je crois, tout à fait cette conviction que les auteurs arabes devaient être compris justement en fonction de ce qui constituait leur culture grammaticale et leurs options grammaticales en arabe.
Alors, pour situer un petit peu l'époque où Roger Arnaldès commence cette étude, en 1954, au tournant des années 50 et 60, par le choix de ses recherches, Roger Arnaldès en fait témoigne aussi d'une lignée d'intellectuels d'orientalistes chrétiens qui se sont inscrits sur les traces de Louis Gardet, dont le fameux ouvrage « La cité musulmane » a été publié en 1954, un petit peu avant Absolument. La thèse de Roger Arnaldès. Et c'est un ouvrage qui fait date dans l'histoire de l'orientalisme, parce que Louis Gardet justement s'est approché de la culture musulmane avec très grand respect, une grande rigueur, au point que ces textes, ces ouvrages ont également servi de référence dans le monde arabe. Alors, Roger Arnaldès s'est aussi intéressé dans les années 60, en 64, là on avance un petit peu dans le temps, à une figure, celle de Al-Halaj, qui est un soufi du 9e siècle, qui s'était lancé dans une prédication. Et en analysant les écrits d'Al-Halaj et les thèmes qui sont chers à ce soufi, comme l'extase, la mort, l'amour avec un A majuscule, là encore, Roger Arnaldès s'inscrit, là cette fois dans la ligne des écrits de Louis Massignon, qui est un autre grand orientaliste français de la première moitié du XXe siècle, qui s'était lui-même intéressé à cette grande figure de l'islam. Alors, Roger Arnaldès s'intéresse aussi, et peut-être surtout, à un certain aspect. C'est là, dans cet ouvrage, il en parle déjà, à la place de Jésus dans la méditation d'Al-Halaj. Et cet ouvrage, qui a été publié en 1964, au moment de la tenue du Concile Vatican II, témoigne de sa volonté de rechercher dans les écrits des penseurs musulmans des siècles passés les traces du christianisme. Alors, on pourrait ajouter simplement que ça coïncide avec le contexte de cette époque. C'est le temps du Concile de Vatican II, mais c'est une époque où l'Église catholique met en place un dialogue interreligieux, traitant avec respect l'islam et les musulmans comme les autres religions. Et Roger Arnaldès était profondément chrétien, et la publication justement du décret Nostra Aetate du Vatican ouvrait justement un nouveau champ d'action à la fois à l'Église catholique, mais aussi au Conseil œcuménique des Églises. Donc c'est une période d'ouverture officielle de travail théologique sur la place de l'islam dans l'histoire du salut. C'est donc une période d'ouverture, de recherche islamologique et d'engagement islamo-chrétien. Voilà, alors à ce moment-là, c'est donc en même temps que Louis Gardet, disons, pendant que Louis Gardet poursuivait ses travaux, une nouvelle génération de chercheurs chrétiens apporte sa contribution, et parmi eux, Roger Arnaldès, Denise Masson, Michel Hayek. Voilà.
Alors oui, bon, c'est vrai que c'est dans ce contexte que s'inscrit ce livre. Comme vous rappeliez, il revient sur cette figure qui a fasciné Massignon, celle de ce mystique musulman Al-Halaj, qui donc finit par être condamné et exécuté à Bagdad, et qui bien sûr pose le problème de la place du mysticisme, ou autrement dit du soufisme, dans la société musulmane. C'est bien sûr quelque chose de très important, je pense, pour Arnaldès, que de comprendre comment l'islam a essayé d'approfondir le lien que le fidèle peut avoir avec Dieu. C'est en fait dans la relation de l'homme à Dieu qui est concernée. On sait que l'islam est une religion légaliste, autrement dit, elle insiste sur le respect d'un certain nombre de règles comme condition au salut. Al-Halaj est en quelque sorte un transgresseur. Il veut aller au-delà de cette simple application des règles, et c'est donc à ce titre qu'il retient l'attention de Massignon d'abord, et d'Arnaldès par la suite. À l'époque d'Al-Halaj, le mysticisme n'est pas encore tout à fait toléré dans le monde musulman. Il faudra l'intervention de ce grand penseur qu'est Ghazali, dont on parlera peut-être tout à l'heure, pour intégrer, canaliser le soufisme dans la cité musulmane. Et même comme cela, il restera des mouvements mystiques qui sentiront le soufre.
Alors, en 1970, Roger Hernandez dresse aussi le portrait du prophète Mohammed pour les éditions Séguère sous le titre Mahomet, peut-être en réponse à la biographie de Maxime Rodinson. Et en 1987, c'est l'édition d'un livre d'un autre penseur musulman, Miskawi, qui mobilise son énergie. En 1997, c'est la figure du célèbre Averroès et en 2002, celle de Fakhreddine Al-Razi qu'il met en lumière. Alors, François Desroches, pouvez-vous situer ces auteurs dans le temps? Commençons d'abord par Miskawi, peut-être après Ghazali, Fakhreddine Al-Razi, puis vous aborderez peut-être à part justement la célèbre figure d'Averroès.
Alors, nous avons là affaire à des penseurs qui sont plutôt des orientaux, puisque le point commun entre Miskawi, Ghazali et Fakhreddine Al-Razi, c'est précisément d'être né dans ce que l'on désignerait aujourd'hui sous le nom d'Iran. Miskawi est un homme du Xe siècle, il est un peu plus jeune que cet Ibn Hazm dont on parlait tout à l'heure. Il est né en 932 et alors on dit dans certaines sources musulmanes qu'il serait mort en 1030, ce qui ferait de lui pratiquement un centenaire, mort à Bagdad. On le retrouve d'ailleurs dans un livre très important d'Arnaldez, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui est à la croisée des trois monothéismes. C'est surtout quelqu'un qui s'intéresse à l'éthique. Son traité d'éthique s'est imposé dans la littérature musulmane et représente une référence importante. C'est extrêmement complet, très didactique, et surtout c'est un ouvrage qui est ouvert aux traditions grecques, aux traditions iraniennes ou encore à la tradition musulmane, bien sûr. C'est également un témoin de cette période d'éclat, de trouble également, qui est celle des Bouyides, donc qui ont pris le pouvoir à Bagdad. Le calife est toujours là, mais c'est eux qui tirent les ficelles. Et cette dynastie d'obédience chiite a suscité un mouvement d'idées tout à fait important.
Original.
Alors, Ghazali est également un Iranien. Il est né à Tous, donc près de l'actuel Machad, vers le milieu du XIe siècle, et il est mort, c'est facile à retenir, en 1111, après une vie itinérante. Il a enseigné en particulier à Bagdad, dans cette madrasa fondée par madrasa, donc autrement dit un collège ou une université musulmane, fondée par le vizir Seljoukide Nizam al-Mulk. Il a voyagé énormément, il a une grosse expérience donc du monde musulman. Et alors lui est quelqu'un qui a une formation classique, qui a également étudié les philosophes grecs, ces philosophes que l'on connaît dans le monde musulman grâce aux traductions qui ont été faites au 8e et au 9e siècle. Mais à un moment, il a une expérience de nature religieuse, une illumination qui l'amène à se rapprocher de la religion et donc à intégrer le soufisme au sunnisme dominant. Et tout en critiquant très fortement justement les philosophes, puisque l'un de ses ouvrages, c'est « La ruine de la philosophie ». Et Roger Hernandez s'est bien sûr intéressé à cela, et surtout à la critique qu'Averroès, on y reviendra dans un instant, a faite de cet ouvrage.
Oui.
Alors, pour terminer avec la troisième tête de cette trinité, Al-Razi, Fakhreddine Al-Razi, pour le distinguer d'un autre Razi, il est né donc... Al-Razi, c'est ce que veut dire en fait son nom. Al-Razi, c'est originaire de Rai, qui est près de Téhéran, comme Miskawi d'ailleurs, et c'est un homme du XIIe siècle. Il a vécu dans la deuxième moitié du XIIe siècle, il a aussi voyagé, et son maître à penser, c'est Avicenne. Cet Avicenne, alors lui, il est plus ancien, 980-1037, contre lequel Ghazali a beaucoup polémiqué, disons, auquel il s'est opposé. Al-Razi, en revanche, est un disciple qui reprend Avicenne et qui essaye de faire davantage appel au raisonnement que son maître pour mener à bien une enquête métaphysique qui rappelle, il faut bien le dire, le grand ouvrage d'Avicenne dans ce domaine.
Alors, quelle synthèse, rapidement, Roger Hernandez tire-t-il de ces penseurs musulmans?
Alors, bon, synthèse, oui et non, c'est Hernandez analyse, il essaye de comprendre, surtout de voir comment les idées passent de l'un à l'autre. Dans ce monde musulman qui est très étendu, puisque en quelques minutes, nous venons de passer de l'Iran, Machad, jusqu'à Cordoue. Donc, les idées voyagent, c'est un point qui l'intéresse beaucoup. Elles voyagent entre musulmans, musulmans, mais aussi entre chrétiens et musulmans, entre juifs et musulmans. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est sans doute de voir comment certains concepts de la philosophie grecque, puisque il y a un substrat emprunté à l'Antiquité grecque qui réapparaît et qui est élaboré par tous ces penseurs. Donc, je crois que c'est plutôt ceci, le cheminement des idées qu'il a captivé et qu'il a retenu de manière si longue, puisque finalement, c'est toute une vie qu'il aura passée à étudier ces systèmes de pensée.
Alors, avant de poursuivre sur Averroès, je vous propose de marquer une courte pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous sommes en compagnie de François Desroches, historien de l'islam, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, pour nous présenter les travaux de Roger Arnaldez, philosophe et islamologue de l'Académie des sciences morales et politiques, récemment décédé en avril 2006. Alors, François Desroches, nous évoquions tout à l'heure les différents ouvrages de Roger Arnaldez, et Roger Arnaldez a consacré une biographie à Averroès. Alors, si vous le voulez bien maintenant, évoquons avec vous, expliquez-nous un petit peu la figure exceptionnelle de ce savant musulman de l'Espagne médiévale, dont on a fêté en 1998 le 800e anniversaire de la mort, et auquel justement Roger Arnaldez, cette année-là, a consacré une biographie. Il faut juste dire que dans ces années 90, les chercheurs, comme les écrivains, comme les cinéastes, se sont emparés de cette figure et ont contribué à porter à la connaissance du grand public l'esprit et la pensée de ce philosophe musulman que Roger Arnaldez qualifiait de rationaliste.
Alors, effectivement, c'est une grande figure du monde musulman. Son nom véritable, si j'ose dire, puisque Averroès est une déformation, c'est Ibn Rushd. Il est né en 1126 et il est mort en 1198 dans une Espagne qui venait de passer sous la domination des Almohades, une dynastie venue du Maroc et qui a repris le flambeau de la lutte contre la reconquête espagnole. Donc c'est dans ce contexte que Averroès a vécu une vie qui est multiple, puisqu'il y a d'un côté l'homme officiel, il a été proche immédiat des princes almohades, un homme qui était également un juriste, c'est dans la tradition familiale, ce sont des gens dans sa famille qui interprètent la loi musulmane, et puis enfin il a été un penseur exceptionnel, puisque il a repris Aristote pour le commenter. Aristote avait déjà été commenté, utilisé par des gens comme Al-Farabi ou bien sûr Avicenne que je mentionnais tout à l'heure. Averroès, lui, considère que le travail n'a pas été bien fait et il essaye de rester aussi fidèle que possible de ce maître qu'aura été pour lui le stagirite et illustre donc sa pensée en la commentant.
C'est la méthode qui intéresse
voilà,
la méthode pour atteindre la vérité.
La méthode, mais il va aussi reprendre un certain nombre de concepts aristotéliciens qu'il poussera vraiment dans ses dernières conclusions. Alors bien sûr, il se heurtera là aussi à des problèmes. Bon, il y a des choses qu'il ne résout pas de manière tout à fait satisfaisante, mais il essaye d'être le plus aristotélicien possible. Et c'est donc par son travail de commentateur, c'est d'ailleurs comme cela qu'il sera connu par les Occidentaux, les philosophes médiévaux comme Albert le Grand ou Thomas d'Aquin,
oui.
C'est par son travail de commentateur qu'il va se distinguer et apporter considérablement à l'histoire de la philosophie. Alors bien sûr, sa postérité du côté musulman est assez mince. En fait, les ouvrages d'Averroès seront surtout utilisés par des philosophes occidentaux. Lui-même arrive, si j'ose dire, à un mauvais moment. L'Espagne va continuer à être de plus en plus reconquise par les souverains espagnols du Nord, et les musulmans verront leur territoire se réduire comme peau de chagrin. Donc, ces conditions n'ont sans doute pas aidé à la diffusion de sa pensée. En outre, l'islam médiéval entre un petit peu en sommeil à cette époque, et cela fait que pour beaucoup de ces textes, il n'y aura pas de postérité véritable du côté musulman, et les manuscrits que nous possédons sont souvent des manuscrits qui sont passés assez tôt en Occident, où ils ont été utilisés par les penseurs que je mentionnais plus tôt.
Et inversement, ça a eu beaucoup d'importance pour l'Occident.
Pour l'Occident,
chrétien,
ça a été
là,
effectivement
a été
absolument décisif, puisque c'est finalement surtout cet Aristote-là dont les difficultés ont déjà été vues par Averroès et partiellement résolues que les uns et les autres vont s'attaquer. Alors, Averroès s'intéresse à tous les aspects de l'œuvre d'Aristote. Il s'intéresse aussi bien à la métaphysique qu'aux problèmes de rhétorique, de morale. Bref, il a une vision extrêmement complète de cette œuvre fondamentale. Alors, le travail de Roger Arnaldez a été essentiellement de relire, bien sûr, Averroès et surtout d'essayer de voir quels ont été les relais qu'il a fournis à la pensée occidentale, mais également à la pensée espagnole, puisque l'intérêt que Arnaldez, et là encore, je crois qu'on en parlera tout à l'heure à propos de son livre À la croisée des trois monothéismes, l'œuvre d'Arnaldez a été consacrée aux échanges qui ont eu lieu dans une Espagne où voisinaient des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et il faut rappeler que Maïmonide est un quasi-contemporain d'Averroès.
Oui,
donc
oui.
Ce sont des penseurs qui ont eu la possibilité d'échanger, sinon directement, du moins assez proche. Il y a, si on peut reprendre ce terme allemand, un Zeitgeist, un esprit du temps, qui fait que les concepts ou les méthodes philosophiques voyagent d'un penseur à un autre.
Alors, j'invite les internautes à retrouver l'intégralité de la bibliographie de Roger Arnaldez que nous évoquons là au fur et à mesure sur notre site internet, juste en cliquant sur l'onglet « En savoir plus ». En tout cas, François Desroches, merci de ces explications sur les commentateurs musulmans que Roger Arnaldez avait choisi d'étudier. Et si nous avons commencé donc l'émission par justement l'évocation d'une grande partie de ces travaux consacrés à l'islam et aux penseurs musulmans de différentes époques, je voudrais pourtant mentionner également tout un pan de l'activité de recherche de Roger Arnaldez qui a trait cette fois à la philosophie antique. Il me paraît important de rappeler qu'il fut l'un des éditeurs scientifiques de l'œuvre de Philon d'Alexandrie qu'on trouve aux éditions Cerf. C'est un travail d'édition qui a mobilisé Roger Arnaldez de 1961 à 1989. Et pendant 30 ans, il a alterné entre son travail sur l'islam et l'édition de ce philosophe qui ne pouvait lui aussi que le séduire par sa position au carrefour du judaïsme, de l'hellénisme et de la romanité. Effectivement, Philon d'Alexandrie était lui-même fasciné par Platon et peut-être que c'était pour Arnaldez un moyen de maintenir le dialogue avec les sujets de philosophie antique. Maintenir le lien avec Platon, avec le père de la philosophie occidentale, peut-être rien de plus normal pour un philosophe ouvert et érudit comme Roger Arnaldez. Alors, pour juste présenter Philon d'Alexandrie, pour comprendre aussi l'intérêt que Roger Arnaldez lui portait, je vais juste le présenter rapidement. C'était un homme au carrefour de deux cultures, la culture juive et la culture grecque. Il est mort en 54 après Jésus-Christ. Il vivait à Alexandrie, en Égypte. C'était une ville, à cette époque-là, très très importante. Et on sait de lui qu'il a participé en 40 à l'envoi à Rome d'une ambassade de membres de la communauté juive d'Alexandrie pour demander protection à l'empereur contre les vexations et les persécutions des gouverneurs romains. Alors, dans son milieu et dans cette partie-là de l'Empire, on parlait le grec. Et il est probable qu'il ignorait l'hébreu d'après les dernières recherches universitaires, mais qu'il maîtrisait très bien le grec puisqu'il le lut et assimila la Bible dans la traduction des Septante. Il conserva sa foi et n'a jamais renoncé à ses devoirs religieux. Alors c'est un penseur original qui ne se rallie à aucune école de son temps. Et en matière de philosophie, il subit l'influence de Platon, de Pythagore et des stoïciens. Alors c'est peut-être ça qui a beaucoup intéressé Roger Hernandez, c'est cette position de carrefour, c'est de travailler sur les textes de Philon d'Alexandrie qui avait une vaste culture hellénique et une profonde connaissance de la tradition juive. Et à partir de la traduction grecque des Septante, Philon d'Alexandrie a développé une forme de commentaires bibliques éclairés par la philosophie, justement en recourant à l'allégorie, et ce qui lui a valu d'ailleurs plus tard l'hommage de l'Église. Voilà, donc toutes les œuvres de Philon ont été publiées sous la direction de Roger Hernandez dans la collection Sources chrétiennes. Alors, venons-en aussi maintenant à une autre partie du travail de Roger Hernandez, cette fois vraiment au carrefour des religions. Venons-en à son approche des monothéismes juifs, chrétiens et musulmans, parce que plusieurs de ses ouvrages sont effectivement consacrés à ce sujet et sont consacrés à la recherche de ces héritages croisés. À partir des années 1980 jusqu'en 2003, une dizaine de titres reprennent ces idées ou approfondissent cette optique. En 1980, il publie Jésus, fils de Marie, prophète de l'islam. Et puis, trois ans plus tard, Trois messagers pour un seul Dieu. Un peu plus tard, Jésus et la pensée musulmane. En 93, un ouvrage qui fait date, à la croisée des trois monothéismes. On va en parler probablement plus longuement. Donc, on a là vraiment... Et puis en 2003, les religions face à l'œcuménisme. Alors, peut-on dire, François Desroches, d'abord que ces travaux reflètent la conviction d'un partenaire du dialogue islamo-chrétien ?
C'est l'impression qui se dégage de la lecture de ce livre, La croisée des trois monothéismes, où on a bien le sentiment que Roger Hernandez a été fasciné par ces rencontres, par cette communauté de pensée qui transcendait largement les affiliations religieuses. Dans le cas de ce livre, il suit en quelque sorte un parcours historique, mais en s'arrêtant plus sur des moments, disons, de naissance, d'échange entre les uns et les autres. Je retiendrai cet intérêt pour Bagdad au IXe siècle, où il montre comment, après la grande période des traductions, donc qui marque la fin du 8e et le 9e siècle, on a cette période plus agitée du Xe siècle, au cours de laquelle Miskawayi rencontre justement à Bagdad différents personnages. Et ce qui est intéressant, Hernandez s'arrête en fait sur le texte d'un auteur qui s'appelle At-Tawhidi, qui rapporte une sorte de réunion d'échange entre différents philosophes, et ces philosophes sont qui musulmans, qui juifs, qui chrétiens, mais ils dialoguent, ils ont des références communes, et même si l'auteur de ce texte, à la longue, finit par montrer que celui qui est le meilleur, c'est son maître Sijistani, qui est un musulman, il n'empêche que ce dialogue a lieu et que chacun apporte son point de vue sans tabou, dirais-je.
Donc, quelle est la perspective de l'ouvrage ?
L'ouvrage est...
L'ouvrage dont je rappelle le titre, à la croisée des trois monothéismes, une communauté de pensée au Moyen-Âge, et qui a été publié en 93.
Alors, cet ouvrage, qui est très touffu, c'est en quelque sorte une philosophie comparée, une philosophie théologique comparée, puisque dans tous les cas qui sont évoqués, les problèmes théologiques ne sont jamais loin. D'ailleurs, ce qui est au centre de ces débats, qui revient comme un leitmotiv, c'est le problème de la création du monde. Est-ce que le monde est éternel? C'est le problème de Dieu. Et enfin, c'est le problème de l'âme. Je pense que Roger Hernandez était particulièrement en phase avec ces questions qui seront posées par Thomas d'Aquin, par Albert Le Grand ou même par Roger Bacon, dont il parle à la fin. Ce sont des problèmes tout à fait centraux, et ce qu'il a vu, à mon sens, d'intéressant, c'était l'occasion de voir comment les problématiques, comment les outils conceptuels se transmettaient d'une communauté à une autre. Alors bien sûr, ça n'est pas une histoire continue, puisqu'il y a discontinuité très nette entre la Bagdad des 9e, 10e siècle et la Cordoue d'Averroès. Donc ça n'est pas ce qui l'intéressait, ça n'était pas tant de faire une histoire des idées que de mettre en lumière ces moments privilégiés où passaient d'une civilisation, d'une religion à une autre, des concepts, des outils intellectuels qui allaient se révéler décisifs. D'ailleurs, il le dit lui-même, le dernier chapitre qui est consacré à la pensée philosophique dans l'Occident médiéval fait pas apparaître du tout de musulmans, ni Albert le Grand, ni Bacon. Et alors, il y a juste la figure de Raymond Lulle qui le retient, parce qu'effectivement, c'est le paradigme du contact islamo-chrétien. Mais enfin, les autres sont des commentateurs installés dans leur bibliothèque face aux œuvres de l'auteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément, ils reprennent ces idées, même si parfois c'est pour les critiquer.
Je vous propose de marquer à nouveau une courte pause et de retrouver François Desroches dans quelques instants. Au micro de Canal Académie, aujourd'hui François Desroches, pour présenter aux auditeurs les travaux de l'islamologue Roger Hernandez, philosophe et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui nous a quittés en avril 2006. Alors, dans la troisième partie de cet entretien, François Desroches, pour rendre compte de la pensée de Roger Hernandez, vous avez choisi de nous parler d'un thème qu'il a particulièrement développé, le djihad. Justement, Roger Arnaldez a analysé les différentes interprétations des grammairiens, des commentateurs musulmans du Coran concernant le djihad. Mais d'abord, pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste le djihad dans l'islam ?
Alors, c'est une question périlleuse, puisque c'est précisément un concept qui pose problème, qui fait l'objet de débats à l'intérieur du monde musulman. On connaît bien sûr l'interprétation la plus familière chez nous, c'est-à-dire la guerre sainte pour étendre le domaine de l'islam, mais on sait qu'il existe aussi dans le monde musulman des interprétations où le djihad est intériorisé, il s'agit d'une lutte sur soi-même pour devenir un véritable musulman. Donc c'est d'un effort pour. C'est un mot qui apparaît dans le Coran, mais les occurrences de ce mot dans le Coran ne sont pas toutes univoques. Justement, les différences de sens qui apparaissent à ce moment-là sont à l'origine de cette interrogation des penseurs musulmans sur la nature réelle du djihad.
Dans le texte, c'est pas spécifiquement expliqué que c'est soit un effort collectif ou un effort individuel.
Ça n'est pas
clairement
complètement
D'accord.
clair. Il y a des endroits où effectivement il s'agit d'un contexte belliqueux. Dans d'autres, en revanche, la racine à laquelle se rattache ce mot reste un petit peu floue.
D'accord. Alors, justement, quelle est la position de Roger Arnaldez sur ce point ? Quelle est son approche de ce concept de djihad ?
Alors, je pense que c'est un point qu'il a commencé à particulièrement retenir son intérêt, non pas qu'il l'ignora par le passé, mais enfin, il me semble que c'est au cours des années 90 et probablement en lien avec une actualité de plus en plus brûlante qu'il s'est intéressé à cette question. Il n'a pas bien sûr écrit de livre sur ce thème uniquement, mais on rencontre plusieurs indices de cet intérêt dans des publications qu'il a faites ou des communications qu'il a données.
Et exactement, il en a donné une en 94 à l'Académie des sciences morales et politiques qui s'intitulait « L'islam, une religion conquérante ».
Voilà.
Qui reprend d'ailleurs beaucoup.
Et donc qui a prête attention justement à cette question de l'interprétation du djihad. Et puis, dans son livre « L'homme et le Coran », il y a un chapitre qui, lui, est vraiment marqué par la problématique moderne, puisqu'il s'intitule « Le djihad et le terrorisme ». Et là, on ne peut pas... Le livre est paru, je crois, en 2002.
Oui.
On ne peut pas voir dans ce choix autre chose qu'une réponse aux interrogations nées après les attentats que l'on sait. Alors, effectivement, l'islam a connu des versions guerrières, violentes et même parfois confinant au terrorisme dans le passé. Roger Arnaldez rappelle par exemple les Azraquites du deuxième siècle de l'Égypte qui sont tout à fait résolus à éliminer par la violence ceux des musulmans qui ne pensent pas comme eux, mais on pourrait aussi penser aux Ismaéliens qui pratiquent le meurtre politique de manière tout à fait cohérente, et ce vizir Seljoukide Nizam al-Mulk, que je mentionnais tout à l'heure, est mort précisément assassiné par quelqu'un qui était pratiquement un kamikaze, puisque ce genre d'attentat contre les personnes se terminait généralement par la mort de l'assassin. Donc, Roger Arnaldez a essayé de lire les textes et il a trouvé effectivement des occurrences, y compris des occurrences récentes, puisqu'il accorde beaucoup d'attention à un auteur comme Saïd Qutb, donc des frères musulmans,
du 20e siècle.
Un penseur qui est mort vers le milieu du 20e siècle et qui est très certainement favorable à une pratique du djihad violente, voire terroriste. Et la conclusion de Roger Arnaldez est plus nuancée. Alors, je ne suis pas tout à fait forcément en phase avec elle. Il considère que l'islam ne cautionne pas ce genre de comportement. Je pense justement que le fait que des penseurs musulmans soient allés jusque-là, ça montre bien qu'il y a, dans les possibilités d'interprétation du texte coranique et de la tradition musulmane, il y a des possibilités de justifier par ces textes des attitudes similaires, et donc le terrorisme en particulier dirigé contre les non-musulmans.
Alors, à titre d'exemple, laissons le djihad de côté, ce concept important de l'islam qui a fait l'objet de nombreuses études aussi pour les orientalistes. Mais à titre d'exemple, cette fois sans rapport avec la pratique religieuse personnelle ou collective de l'islam, voyons dans les travaux de Roger Arnaldès quelle est la place de la liberté, la place de la raison au sens philosophique dans le Coran. Et puis on pourrait aussi s'interroger quelle est la place de l'homme, parce que là encore ce sont des interrogations que Roger Arnaldès s'est posées en tant que philosophe.
Pour ce qui est de la liberté, il est vrai que, curieusement, Roger Arnaldès s'est peu intéressé aux Moutazilites, dont la lecture coranique offrait une place au libre arbitre.
Oui.
Il s'est intéressé finalement à d'autres auteurs.
Vous pouvez rappeler dans le temps le
Donc les Moutazilites, c'est le 8e siècle, début 9e.
Ce sont des
philosophes qui n'ont pas, qui ont marqué la pensée de l'islam, mais qui n'ont pas emporté la décision.
Voilà.
La communauté musulmane s'est ralliée à une position qui est davantage marquée par le sentiment que la volonté divine pèse sur les actes humains. Alors, le Coran lui-même est très ambigu. En fait, justement, si les Moutazilites et leurs adversaires ont trouvé des arguments, c'est que dans le Coran, on pouvait retrouver des passages qui justifiaient l'une et l'autre position. Donc, on a en fait, sur ce point, une dispute qui pourrait ne pas terminer entre les tenants du libre arbitre et ceux qui considèrent que tout est prédéterminé. Alors, dans la pratique, les extrêmes sont un petit peu passés sur le côté, on s'est acheminé plutôt vers une voie moyenne. La raison, elle n'est pas tellement présente dans le Coran. Enfin, ou si elle intervient, c'est plutôt à titre d'appui de la foi. À plusieurs reprises, le texte coranique invite les croyants à raisonner pour voir que ce qui est dit, c'est bien la vérité, que les signes que Dieu donne sont bien ceux-là. Mais en revanche, il n'y a pas d'invitation à utiliser la raison pour découvrir l'existence de Dieu ou pour faire une expérience, disons, du type cogito cartésien,
oui,
pour démontrer l'existence de l'homme. La raison, encore une fois, c'est simplement la capacité à bien comprendre ce qui se passe, et bien comprendre ce qui se passe, c'est voir que Dieu est là et que le texte du Coran est une révélation qu'il faut suivre.
Et sur la place de l'homme ?
Bon, effectivement, là, c'est un point aussi assez délicat, puisque l'homme dans le Coran est soit un musulman, donc quelqu'un qui a reconnu la vraie religion, soit il est de ceux qui ne croient pas, et à ce moment-là, il est voué à l'enfer. Disons que le message coranique tend à privilégier une relation de soumission. Le mot islam veut bien dire cela, de soumission complète de l'homme par rapport à Dieu, et avec peut-être un sentiment d'éloignement, de distance infinie entre l'homme et Dieu, que les mystiques musulmans ont tenté de combler par leur approche dans laquelle l'élan, disons, de la sensibilité permet de se rapprocher de Dieu, de faire l'expérience de Dieu, et donc combler un peu cette espèce d'écart énorme qui existe entre le Créateur et la créature.
Eh bien, écoutez, merci François Desroches pour cet entretien éclairant en hommage à Roger Arnaldès. Cette émission s'inscrit dans une série d'émissions d'ailleurs consacrées à Roger Arnaldès sous la forme de 3 volets. L'homme, son œuvre et la lecture d'une communication qu'il a donnée en 1994 lors d'une séance de l'Académie des sciences morales et politiques intitulée « L'islam, une religion conquérante ». Retrouvez-les, téléchargez-les sur la médiathèque de Canal Académie sous la rubrique « En habit vert » et retrouvez sur notre site des informations complémentaires sur sa biographie et sa bibliographie en rapport avec l'émission que vous venez d'entendre en cliquant sur l'onglet « En savoir plus ». François Desroches, merci de vos explications et à bientôt.
Merci, au revoir.